Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On se plaint souvent d'avoir des robinets d'eau tiède en conférence de presse. T'as un mec qui ouvre sa bouche, alors peut-être à bon escient ou à mal escient. Au moins, il est pas tiède.
Paul Bass, un monde, Paul Bass. Ne touche pas à Paul Bass.
C'est simple, hein. Le jeu de Lille, c'est L1 et triangle, donc passe par-dessus pour ceux qui jouent aux jeux vidéo.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC avec Kevin Diaz. Kevin, avec ton micro. Ouais.
Incroyable jingle, Doucem.
C'est un scandale. Tu sais quoi? Je vais poser une réclamation auprès de notre directeur général. Parce que c'est du off. C'est pas du off.
C'est possible de la part pour les réseaux sociaux.
Ça date d'il y a 2 ans, en fait. J'explique le contexte. Julien Cazard faisait une chanson sur Paul Bass. Il nous a demandé à chacun dans la rédac de poser nos voix. Et j'ai posé ma voix.
Mais t'as mis ça sur le TikTok d'RMC Sport?
Non.
Ça fait 100 000 vues.
Mais après, moi, j'ai envie de rester dans ma carrière de journaliste.
J'ai mis vos pulls sur mon compte Instagram.
Allez voir, Kevin Diaz.
Jonathan McCarty, Oussem Le Saïef t'accompagne ce soir, Kevin, dans Génération After. C'est parti entre le Real et l'Atlético 0-0 après 2 minutes de jeu. Messieurs, tout de suite, nous allons parler et écouter surtout religieusement Oussem Le Saïef, le PSG et sa gestion des jeunes. C'est parti. Jingle.
8x9. 8x9, 64, 63.
Tu en poses la question, 8x9?
Je sais toujours pas.
72.
À l'école, on m'a dit, je leur ai demandé où est-ce qu'il y avait le moins de maths. On m'a dit, faut aller chez les littéraires. Je suis parti.
C'est le plus simple. Les 9 dans les
tu retires, non, tu retires exactement.
Tu fais 10 et tu
le chiffre de son multiplicateur.
Ok. Arrêtez. Le plus simple, c'est 5 parce que c'est 5 et 0 à chaque fois. Voilà, c'est tout. Arrêtons.
Non, le plus simple, c'est 1.
Exact.
Disons que le plus simple, c'est vraiment 0.
Oui, encore une fois, il y a des pièges. Passons au Paris Saint-Germain et à sa politique avec les jeunes. Et en fait, je vois ce qui se passe en ce moment et je me dis, j'ai pas envie qu'on revienne au Paris Saint-Germain d'il y a quelques années. Je m'en rappelle, moi, quand j'entendais des jeunes à l'époque où j'avais moi 13, 14 ans et qu'on disait oui, ce jeune-là intéresse le Paris Saint-Germain. Et la réponse était, mais j'y vais pas parce que c'est pas un club qui fait jouer les joueurs qu'il forme. Alors après, il y a eu un travail. On a vu quelques cas. On a vu la génération Kimpembe, Rabiot. Avant eux, certains ont joué un peu. Je me rappelle, on cite des noms qui sont des souvenirs aujourd'hui, mais Baébec, etc. Ils ont un peu joué au Paris Saint-Germain. Exactement. Donc il y a eu une génération qui a un peu joué. Donc il y a eu un petit travail. Et puis là, on est sur une nouvelle politique. Il y a un homme comme Johan Cabaye. Son travail dans l'ombre depuis quelques mois et même des années a été excellent auprès des jeunes. Là, il vient d'être nommé depuis peu à la direction. Il est directeur adjoint du centre de formation. Il fait un travail énorme avec les clubs amateurs. Moi, je le vois, j'entends, j'ai des échos dans les clubs amateurs de la région parisienne. Il bosse bien. Mais j'ai peur que son travail ne serve à rien. Parce qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on comprend pas ce qu'ils font parce qu'il y a le projet Campos. Et le projet Campos est bien plus important que le projet formation au Paris Saint-Germain. Il vient y créer un groupe élite. On se dit que c'est une bonne idée. On va se concentrer sur ce qui se fait de meilleur au Paris Saint-Germain chez les jeunes pour essayer de les faire progresser. Mais Kevin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Pour progresser en football, il faut jouer des matchs de football. Les entraînements, c'est bien. Je veux bien que tu t'entraînes avec Messi, ça te fasse progresser. Mais il faut jouer des matchs de football. J'ai envie de voir ces jeunes du Paris Saint-Germain galérer contre un club qui joue le maintien. Je veux voir ces jeunes du Paris Saint-Germain aller montrer qu'ils peuvent jouer face à une grande équipe du championnat de Ligue 1. Et c'est pour ça que je trouve ça incohérent. Alors le projet Campos, il est aussi financier. Je veux bien, moi, les plus-values. Ça a marché à Monaco. Cette année, on récupère un petit jeune, là, il y a quelques jours, de 17 ans, de Porto, un latéral gauche. On se dit qu'ils l'achètent parce qu'ils vont le faire jouer, ils vont le faire progresser, ils vont le vendre. Je veux bien. Et le nom de Cherki qui arrive. Je parle pas du joueur de foot et je parle pas de la stratégie football. Tu veux le prendre, on dit que peut-être ils vont l'acheter, ils vont le faire progresser, ils vont le revendre. Chacun voit comme il veut ce transfert-là. Moi, je pense aux jeunes du centre de formation. Et j'ai regardé un peu les statistiques. On a des joueurs qui sont pas mal. On a El Shaddai, on a Elias Ousni, on a le petit Carrick qu'on a encore pas vu, on a Garbi, on a Zaïre Emery. Dans tous les noms que je vous ai cités, il y a que Zaïre Emery qui a fait 9 matchs. 9 matchs, pour lui, ça équivaut à 225 minutes. Bichabou, c'est 5 matchs de titularisation seulement. Et une fois arrière gauche dans les titularisations. Donc moi c'est à eux que je pense en premier lieu. Et quand je dis qu'il faut qu'ils soient clairs, c'est que moi je te demande pas de les faire jouer tous les jours. Mais si tu veux pas les faire jouer, prête-les. Je sais pas pourquoi au Paris Saint-Germain on est allergique aux prêts.
Alors la vérité c'est qu'ils ont atteint le quota de prêts.
Non mais en France tu peux prêter. Ça c'est à l'étranger. Il y a le nombre de quotas qui a été limité, mais ils peuvent prêter et c'est moins de 21 ans. Quand t'as moins de 21 ans, tu peux être prêté.
Le prêt d'Adrien Rabiot, il y avait été très
mais ça a été ce qui a été de mieux dans sa carrière. Il a joué à Toulouse, il a galéré, il a joué des matchs où c'était lui qui devait prendre ses responsabilités. Et c'est en ça que moi, je ne comprends pas cette logique envers les jeunes. Je ne suis pas pour le jeunisme. Je ne veux pas qu'un petit de 20 ans soit imposé parce qu'il a des qualités. Je veux qu'on leur laisse la chance de montrer. Et puis si on veut pas les faire jouer, qu'on les prête. Alors je sais qu'il y a des agents qui mettent la pression pour que leurs joueurs aient du temps de jeu. Je connais l'univers du football. J'y baigne depuis que j'ai 8 ans. Je sais ce qui se passe. Mais s'il vous plaît, quand on a des joueurs de talent, si tu peux pas leur proposer du temps de jeu et que tu préfères leur amener des mecs comme Soler et comme Ruiz, et ben dans ces cas-là, prête-les. Envoie-les. Ça va faire du bien à des clubs qui jouent le maintien. Et au moins, on va avoir du temps de jeu. Ou prête-les même en Ligue 2 si tu veux. Mais fais-les jouer. Un joueur de football qui ne joue pas, c'est un joueur mort, tout simplement.
Non, mais je suis d'accord avec ton avis dans l'ensemble. Maintenant, il y a quelque chose, je pense, qu'il faut dire, c'est que je crois que les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas le niveau de jouer au Paris Saint-Germain.
Les jeunes.
Et c'est pas très grave. Personne n'a le niveau de jouer au Paris Saint-Germain aujourd'hui en Ligue 1 quasiment. Je veux dire, au vu des
objectifs. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais je vais te laisser finir. Je suis pas d'accord avec toi.
Mais moi non plus.
Moi, je pense que plus que, je vous parle pas de faire un match de temps en temps contre un
d'avoir mal une vraie
classé,
politique
ou de jouer contre Châteauroux en Coupe de France. Ça, il y a beaucoup de joueurs en France qui ont le niveau. Mais je veux dire, d'avoir vraiment du temps de jeu, c'est-à-dire de faire, pour moi, du temps de jeu, c'est quoi? C'est 20 matchs. Et dans les 20 matchs, faire au moins 9-10 titulaires et le reste c'est des entrées, ok, mais 10 matchs titulaires, 20 matchs sur ton CV.
Tu penses que le Pierre Emery, on peut pas lui proposer ça?
J'allais te dire qu'il y aura toujours des exceptions et heureusement. Je pense que Pierre Emery, qui pour moi est trop jeune pour jouer au Paris Saint-Germain, mais
pour le faire progresser.
Mais on voit que clairement lui il a quelque chose, il est au-dessus, il a quelque chose. Maintenant, plutôt que les prêter, et ils ont essayé, il faut le faire, ok, prêter c'est bien, Kalimundo, il faut que le joueur accepte, il faut que son entourage voit l'intérêt aussi. Moi je pense que l'option de rachat elle est plus intéressante. Ce qui se passe avec Xavi Simons, alors les gens pensent qu'il est parti du Paris Saint-Germain. Certes, il est parti, il n'appartient plus au Paris Saint-Germain, mais ils ont une option pour racheter Xavi Simons, qui est tout simplement excellent avec le PSV Eindhoven depuis qu'il est arrivé en Eredivisie. C'est un contexte qu'il lui faut. Il peut s'investir parce qu'il a un contrat avec le club, etc. Et je pense vraiment que l'option de rachat, c'est la meilleure option, en tout cas en ce qui concerne le Paris Saint-Germain et son standing au vu de leurs ambitions. Parce que quand je vois Nkunku, on me dit, ah oui, mais Nkunku, regarde ce qu'il fait. Ah, il aurait pu jouer au PSG. Non. En fait, je pense que Nkunku du Paris Saint-Germain n'aurait jamais été le même joueur que Nkunku qui est parti aujourd'hui et qui s'est magnifiquement développé du côté de Leipzig. C'est pareil pour Moussa Diaby. Ce qu'il a fait en partant du PSG pour aller vers Koussen, c'est magnifique.
Différent pour Coman, Nico, parce que moi, quand je parle avec les gens qui étaient autour de cette génération-là, on me dit que clairement, à ce moment-là, on savait déjà que Kingsley Coman, il était au-dessus du lot. De la même manière qu'on voit aujourd'hui que Zaïre Emery est au-dessus de sa génération. Et on dit que Kingsley, c'est une erreur du Paris Saint-Germain d'avoir laissé partir.
On peut pas le mettre dans le même panier, parce que Coman, contrairement à Nkunku, il a vraiment quasiment jamais joué avec l'équipe première.
Oui, mais
c'est pour ça que je te dis, il y aura toujours des exceptions, bien sûr, qui vont te dire, dans lui, il faut le faire jouer, c'est une pépite, il est fort, il est bon dans la tête. N'oublions pas le facteur dans la tête, ce qui se passe.
Il
n'y a pas que ce qui se passe sur le terrain. Il faut que le gars soit prêt. Et je finirai par prendre un autre exemple. Tu as parlé d'Adrien Rabiot. Lui, son prêt, ça s'est bien passé. Mais après, c'est très difficile de s'imposer dans ton club formateur. C'est très, très difficile parce que tu as des attentes. Et je finirai donc par parler de Presnel Kimpembe. J'ai parlé avec son formateur et il me disait, d'ailleurs j'ai aussi parlé avec une autre personne qui est Saïd Egoun, qu'on a connu sur RMC Sport, qui nous disait mais Presnel, c'était même pas le gars ou l'autoroute vers l'équipe première.
Non,
c'est un mec qui était là, on pensait même pas forcément qu'il allait sortir, par contre il s'est accroché et lui dans l'adversité il a voulu montrer et il a réussi à montrer, donc bravo à lui. Mais des fois ceux qui sont sur l'autoroute, c'est la pépite, tout le monde les enflamme, les met sur un piédestal, et des fois eux ils ont les plus grandes difficultés, on le voit souvent à Marseille.
Je voulais te répondre parce que je trouvais ça très intéressant et je suis à la fois d'accord avec Kevin et à la fois d'accord avec toi sans vouloir être la Suisse ce soir. Mais attention, je pense que quand on parle de joueurs comme par exemple Moussa Diaby, je pense que c'est formidable ce qu'il fait en Allemagne. Mais à l'heure actuelle, si t'es le Paris Saint-Germain qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions, Moussa Diaby, il est sur le banc. il est pas dans ton 11 de départ.
Mais je t'ai pas demandé d'avoir les jeunes juste, dans ton 11 de départ.
Hein. Avoir. C'est qu'en fait, le problème, c'est que le projet du Paris Saint-Germain, qui est de gagner de manière obsessive la Ligue des Champions, ne laisse que très peu de place au développement des jeunes joueurs. Et que pour qu'un jeune joueur intègre cette équipe première, qui a donc cette ambition à la limite de l'obsession, faut que ça soit un jeune exceptionnel. Faut que ça soit un jeune du niveau d'Adrien Rabiot ou un jeune du niveau de Kingsley Coman. Malheureusement, on sait que dans le foot actuel, c'est très rare ce genre de jeunes qui sortent du centre de formation et qui ont tout de suite le niveau Ligue des Champions. C'est les Foden, c'est les Bellingham, etc. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et ce qu'il faut à ces joueurs-là, c'est du temps pour se développer. Et là où je te rejoins, Oussem, c'est que moi, ce qui me choque, c'est la politique du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que, ok, on a compris, t'es pas dans un projet qui va faire la part belle aux jeunes, on peut comprendre. Toi, tu veux gagner la Champions League directement, il te faut des joueurs d'expérience, etc. Mais pourquoi, du coup, tu vas chercher des mecs, des petits jeunes au Portugal ou je ne sais où, alors que je pense que c'est les jeunes de ce même niveau,
ça, c'est les mêmes. C'est le projet Campos. Mais ça, c'est même pas ça qui me dérange, parce que là, tu vas gagner de l'argent. C'est même pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que ta profondeur de banc sont des joueurs moins bons ou à égal niveau que ceux que t'as dans ton centre de formation que tu peux développer. Je préfère que tu te casses la figure à faire jouer quelques matchs. Et j'avais dit la même chose à l'époque quand Malo Gusto dormait sur le banc à Lyon. J'ai dit, je préfère qu'on mette Malo Gusto qui fasse des erreurs, qu'on arrête avec Dubois. Exactement. Il va faire des erreurs. Et ben, il va apprendre. C'est pas grave. Je te jure que je préfère que le petit Ousni, il soit très mauvais 4-5 matchs, mais qu'on continue à le faire jouer de temps en temps. Comme il dit Kevin, qu'on le fasse titulariser, qu'il se mange des vieux briscards comme Chardonnay, des mecs qui vont lui rentrer dedans. Ça va l'aider. Ça va le faire développer. Tu seras gagnant au niveau business et tu seras gagnant sur le football.
L'espoir qu'il peut avoir, c'est tout simplement que moi, je pense que le Paris Saint-Germain va être très vite champion cette saison. Et je pense que là, bah, il n'y aura pas trop de risques à essayer. À leur donner
c'est dommage de réfléchir.
Je ne suis pas sûr que ça soit le qui le passe.
Que le PSG
soit
très vite champion cette saison.
Pour moi, il y a un autre.
Tu vas voir la différence risque de se faire.
Il y a un autre énorme problème. Et le football est en train de se tirer une balle dans le pied. Moi, je le dis, je le répète chaque semaine ici même au micro d'RMC. Mais les jeunes, ils veulent commencer et on veut les faire commencer beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, un jeune à 17, Zahir Emery à 16 ans et demi, mais la plupart c'est entre 17 et 18 ans, les entourages, les joueurs et même les clubs veulent les faire débuter, mais c'est complètement ridicule. C'est ridicule.
Je répète, Kevin.
À part exception, un joueur est formé déjà même à 20 ans. La plupart, ils sont pas encore formés. Et donc, il faut leur laisser.
C'est de la post-formation. Je te répète, Kevin, je ne l'ai jamais demandé à ce que ces mecs-là soient titulaires, ces jeunes-là. Je te demande que ça doit être une alternative à ce que tu as déjà. Et on peut allier, il y a Jimmy Brown, notre producteur qui me dit ça dans l'oreille, il me rappelle ça, au Real Madrid, ils ont réussi à allier des stars et des jeunes formés au club. On peut tous faire ça. Alors oui, si c'est pas l'alternative des prêts et que ça passe par une vente
au Real des jeunes formés au club.
Bah oui, les Ceballos, les
ouais, il a eu plein. Ouais, c'est un moment quand même. Enfin, je trouve. Enfin, c'est.
Là, je réagis à ça parce que toi, t'as France, Asensio. Et alors, je te parle pas de l'exemple du Barça, mais t'as Asensio du côté du Real.
Barça, évidemment.
Tu peux en prendre.
Dans la rotation.
Tu peux en avoir 2-3. Il est dans les plus gros clubs. T'as ça. Là, il y a ta Manchester City en ce moment qui est en train de lancer des jeunes aussi. Tu peux le faire. Je te demande pas qu'ils soient des titulaires. Je préfère juste que quand t'investis dans un centre de formation, que tu mets des mecs performants à ta direction du centre de formation, que leur travail serve à quelque chose. Tout simplement.
Juste deux choses. La première, c'est qu'il faut pas oublier une chose. C'est juste pour un élément de contexte. C'est que la vente des jeunes, même si elle a été très triste pour certains, a permis au PSG de se sauver face au fair play financier. Je te rappelle, le Mercato Nkunku, il part, il y a tous ces jeunes qui partent pour 15 millions. Le PSG, c'est un impératif catégorique. Et la deuxième chose, c'est que, attention, Nkunku et Xabi, je pense que c'est ça qui inspire un petit peu cette frustration vis-à-vis des jeunes, parce que t'as des jeunes que tu vas prier dans des bons clubs en Allemagne. Mais attention, ces deux joueurs qui sont un petit peu les figures de proue de cette frustration, pour moi, ils sont pas dans des clubs niveau Ligue des Champions. Donc, attention de voir
ça. Intéressant, n'empêche, on posera la question. Quels sont les départs de jeunes du centre du PSG les plus regrettables? A posteriori, je parle avec Maignan, on va en parler. C'est pour les gars. On fait une pause.
Mais juste Joe, avant la pause, on en parlera après. Mais tu vois, si tu rachètes le joueur comme Nkunku,
t'as une option
de rachat sur Nkunku et Diaby. D'ailleurs, tu te fais 70 patates. Hein. Ouais, parce que les mecs, ils vont être vendus 80 millions. Toi, tu l'as racheté 10 et tu le revends 70.
Allez, reste avec nous. On prolonge le débat. On attend au 32-16 également. Il y a pas mal de messages sur Direct Studio également. Je lirai celui de Franck dans un instant. Reste avec nous. C'est Génération After 0-0 entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid après 15 minutes de jeu. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After avec Jonathan Macardy, Oussem Lusayef et Kevin Diaz. On débat de la politique des jeunes au Paris Saint-Germain. Beaucoup de supporters parisiens réclament plus de de jeunes, de Titi, comme on les appelle, dans l'équipe. Quelques minutes, quelques apparitions, les montrer, les faire progresser simplement.
C'est alors,
il y a Franck qui nous dit sur Direct Studio, supporter du PSG, j'imagine, on s'en fout que les joueurs sur le terrain ne soient pas formés au PSG, on veut gagner la Ligue des Champions, point barre. On n'est pas à Foot Manager demander si les supporters du Real ne sont pas contents de gagner la Ligue des Champions, et pourtant il n'y a pratiquement jamais aucun joueur de Castilla. Pareil pour la plupart des vainqueurs de C1.
Bah, je t'invite à regarder la liste. C'est factuel, c'est quel factuel chez lui alors, qui regarde la liste du joueur, des joueurs du Real Madrid alors.
Ceballos nous dit Roi sur les studios, forme au Betis, Asensio forme à Mallorca.
Voilà, ouais, mais plus. C'est de la post-formation. Ils sont depuis quand au Real?
Non, Valverde est vraiment formé au Real.
Non, Valverde, c'est de la post-formation.
Mais ils le prennent à 15-16 ans, Valverde.
Oui, mais si, on peut dire que c'est. Si Paris prend Cherki à 19 ans, c'est la post-formation.
Moi, je te citais des joueurs qui sont dans le groupe élite.
Non, mais c'est vrai. C'est une forme. Après, la vraie post-formation, c'est le joueur
qui joue en réserve et en 19 ans.
Qui a joué 10 matchs, quoi, ou qui n'a pas joué du tout.
Marseille était très fort à ça dans les années Pape Diouf. Rappelez-vous. Caboret, Valbuena, tout ce genre de joueurs-là.
C'était des mecs qui récupéraient plus jeunes, ouais.
Ouais. Qui étaient achetés pour 100 000 euros et qui.
De toute façon, Valbuena, il avait déjà fait quelques saisons.
Il avait déjà 22, 23 ans, quand même,
ouais. Non, il venait de national.
Non, les meilleurs dans ça, c'est
où c'était Libourne ou Longue
Libourne.
Les meilleurs, c'est l'AS Monaco. Ils ont fait le coup avec Bernardo Silva, avec Thomas Lemar. Et pour le coup, c'était Campos.
Non, mais c'est le projet Campos, là, quand il va chercher le latéral gauche, j'oublie son nom. De Serif, j'oublie son nom, je suis désolé, de Porto. Je pense que c'est le projet, c'est de le faire progresser.
Ça se tente.
Juste par contre, sur le message de l'auditeur, tu vois, ça c'est une vision, je peux comprendre. Il s'en fout d'avoir des Titi dans l'effectif. Ce qu'il veut, c'est gagner la Ligue des Champions. Mais on peut pas m'empêcher de croire, de savoir, et surtout de savoir, parce que j'ai beaucoup d'amis supporters du PSG, chacun a ses torts, je peux pas m'empêcher de savoir que ça embête quand même beaucoup de supporters parisiens de pas avoir de Titi dans l'équipe.
Mais au-delà de ça, mais pas de centre de formation dans ces cas-là.
Non, ce que disent les supporters parisiens, parce que moi aussi j'en ai beaucoup et je les salue, mais c'est que plutôt que d'avoir un joueur qui a coûté 40 millions sur le banc et qui on se rend compte que c'est pas une plus-value directe pour l'effectif, dans ce cas-là, vaut mieux avoir un jeune. Et là, je peux l'entendre. Même si, attention, bon, je sais pas que pense Galtier des jeunes joueurs, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne veulent, par exemple, il y a des entraîneurs qui ne veulent pas forcément travailler avec des jeunes, parce que travailler avec des jeunes, c'est compliqué.
Parce qu'ils
ont une mentalité quand même particulière, qu'ils se prennent tous pour Messi et Neymar, et ça existe aussi, il faut pas se le cacher.
Il y a beaucoup de joueurs qui se prennent Renato déjà.
Pas beaucoup, non, parce qu'il lui restait un an de contrat.
35 millions?
Non,
Renato, il est pas libre.
Non, il lui restait un an de contrat, je crois, c'est pas ça.
On va vérifier.
J'ai Grégory au
32-16. Supporter du PSG. Salut Grégory.
Salut Grégory.
Salut Grégory.
Salut Grégory.
Tout va bien? T'écoutes le débat?
Oui, j'écoute le débat.
Et tu en penses quoi?
Alors, le débat. Alors, moi, au risque de me répéter à chaque fois que j'ai un antenne chez vous, mais je vais le redire quand même. Pour moi, le problème de Paris, c'est pas les jeunes, c'est pas le mercato, c'est pas tout ça. C'est toujours le même problème, c'est la direction. Je vais m'expliquer. À Paris aujourd'hui, tiens, on reprend le débat qu'il y avait hier sur Cherki, si c'est une bonne idée à Paris, etc. Toute idée bonne devient une idée moyenne à Paris. Toute idée moyenne devient une idée pourrie à Paris. Toute idée pourrie, comme Cherki par exemple, devient une idée catastrophique à Paris. Et c'est pareil avec les jeunes. Les jeunes, oui, pourquoi pas, ouais, ils sont bons. Moi, je me rappelle quand on a eu Nkoukou à Paris, qu'il était chez nous, on se foutait de sa gueule. Quand on a eu Diaby qui était là et qui rentrait, on se foutait de sa gueule. Et puis on est maintenant qu'ils sont à l'extérieur.
Il était pas très bon Nkoukou aussi, hein.
Ouais, mais parce que tu ne peux pas, Jonathan, tu ne peux pas les développer.
Ouais,
au même titre qu'un Wijnaldum qui vient de l'extérieur que t'achètes, vient pourri à Paris.
Je te coupe mon poulet, mais il a eu beaucoup de temps de jeu Nkoukou au PSG quand même. Hein.
Non, mais d'accord, mais parce que tu as raison. Tu donnes de l'eau à mon moulin quand tu dis ça, parce que ça n'est pas un problème de tu donnes du temps de jeu, c'est l'atmosphère, c'est l'ADN de ce club, malheureusement, avec cette direction, le poisson pourrit toujours par la tête. L'homme le plus important dans un club de foot pour moi, c'est le président. Tant qu'on aura ce président-là, tant qu'on aura cette direction-là et cet ADN-là, on ne pourra rien faire. Tous les joueurs qu'on recrutera seront moins bons chez nous. Tous les jeunes qu'on prendra seront moins bons chez nous. C'est comme ça. Regardez, mais tous les exemples me donnent raison. Tous les exemples des mercato me donnent raison. Regardez Fabien Ruiz, c'est un tueur.
Non, ça c'est pas vrai.
Au Napoli,
Je vais te dire que la majorité des supporters du Napoli étaient bien contents qu'il s'en aille, parce que certes, c'est un très beau joueur, mais extrêmement irrégulier et parfois un peu agaçant par sa nonchalance.
Excusez-moi, mais tous les joueurs que je vois arriver chez nous, ils perdent entre 10 et 20% de leur talent d'un coup. Boum, t'as tombé d'un coup. C'est comme ça, c'est perdu. C'est un truc de fou quand même. C'est tous pareil. Et c'est pareil pour les jeunes. ils développeront malheureusement à l'extérieur, tant qu'on n'aura pas une situation stable, une direction stable, un vrai chemin qui te dit où on va. Je vais vous dire un truc, moi. Moi, contrairement à l'auditeur qui a dit tout à l'heure la Ligue des Champions, moi j'en ai ras le cul de ce totem de Ligue des Champions. Non, mais vraiment, moi je m'en fous de la Ligue. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir mon club progresser. Et alors, je vais vous dire plus. Je vais au bout de la logique. Demain, il la gagne, la Ligue des Champions. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? On est mort? C'est terminé?
J'aime beaucoup ce que tu dis.
C'est vrai.
Non, mais c'est
en faire une fin en soi absolue, un graal absolu, t'empêche de réfléchir sur une stratégie sur la long terme.
Qui est ton club, en fait?
Il y en a qu'un qui la gagne, la Ligue des Champions. Il y en a qu'un. Tout le monde veut la gagner. Et quoi, tous les autres clubs, c'est des clubs pourris à côté quand ils ne la gagnent pas? Bien sûr que non.
Bravo, Grégory. Bravo,
c'est du bon sens.
Après, il faut quand même arriver à la gagner au bout d'un moment. Tu vois.
Oui, mais le problème, ça peut être un objectif, pas une fin en soi.
Le problème, c'est que ça doit être un objectif sur le moyen terme. Et là, moi, ce qui m'avait laissé un petit peu d'espoir quand il y a eu la nomination du binôme Galtier-Campos, c'était que, après, on est habitué, c'est tous les ans, après chaque déconvenue en Ligue des Champions, Nasser vient ressortir la même soupe, mais c'était, on entame un nouveau cycle. Cette fois, on va se laisser 3-4 saisons pour essayer d'aller chercher la Champions League. C'est un travail de fond. Et malheureusement, le travail de fond, pour l'instant, l'instar de la vie d'Oussem, notamment sur les jeunes, c'est un point qui est essentiel et j'ai pas l'impression qu'il soit très bien fait.
Et ce que tu disais, Grégory, c'est juste, et tu cherchais le mot, est-ce que tu me permets de dire qu'en fait, que tu sois un jeune joueur ou que tu sois un nouveau joueur quand tu arrives dans un club, et particulièrement quand tu arrives au Paris Saint-Germain, au final, tu as besoin d'un cadre.
D'accord.
Mais le cadre pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire des règles de vie, c'est-à-dire voilà, bon, des règles bien sûr tactico-techniques, mais bon, ça.
Une autorité.
Une autorité. Mais le problème, c'est que le cadre, il t'est aussi donné par les cadres. Et
ouais,
les
ça.
Cadres, à part Kylian Mbappé, les cadres, tu sais très bien que c'est des cadres que moi j'apprécie beaucoup.
Qui sont cadres quand même, en fait.
Mais voilà, le problème c'est que déjà les cadres n'ont pas de cadre.
Mais c'est
donc c'est difficile.
Les cadres n'ont pas de cadre, Kevin. Les cadres n'ont pas de cadre parce que la direction est faible. Parce que
c'est le même constat. Ce constat, on va le faire à chaque fois.
Ouais,
chaque
on se répète
effectivement là.
Mais c'est ça.
Mais c'est sûr. En tout cas, moi, j'ai pas donné mon avis sur Ryan Cherki parce que j'étais pas là hier soir. Mais quand j'ai vu passer ça, je vous assure, je croyais que c'était une blague. Je me suis dit, non mais pas maintenant. Ok, ce sera peut-être un bon joueur, mais il a fait 5 matchs là, et même les 5 matchs, quand même, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas Ronaldinho. Donc je me dis,
oui, mais il connaît des gens importants au PSG, Ryan Cherki.
Il connaît un gens important au PSG.
Pour le remettre dans mon classement de tout à l'heure, Ryan Cherki, on est tous d'accord pour dire que c'est une mauvaise idée, ça devient une idée catastrophique à Paris. Voilà. Donc, faut toujours dégrader quelques.
Oui, mais apparemment, on voudrait l'insérer dans un 4-4-2 sur certains matchs en Ligue 1. Il serait l'homme à droite, voilà.
Non, mais l'homme à droite.
Ça pourrait être une bonne idée.
Même s'il a les deux pieds, Ryan Cherki, c'est quand même un droitier, je crois, à la base, même si apparemment il a vraiment les deux pieds
sur le droit. Un droitier qui rentre dans l'axe.
Ouais, mais bon. Dans ce cas-là, tu avais un joueur comme Sarabia qui était excellent l'année dernière au Sporting. Tu vas pas me dire que Sarabia, mais moi je trouve Sarabia, c'est un excellent joueur de foot. Avant, tu avais Di Maria, quand même, t'es champion du monde, même si, ok, il est sur la fin.
Et derrière, tu me dis,
Ryan Cherki, c'est une option. Mais Ryan Cherki, c'est même pas un diamant à polir. Il est encore avant. C'est-à-dire qu'il a énormément peut-être de talent, mais est-ce qu'il a l'intensité? Est-ce qu'il a ce qu'il faut, même mentalement, pour aujourd'hui répondre aux exigences du Paris Saint-Germain et de ce vestiaire ultra difficile puisque non cadré? Honnêtement, je suis désolé, mais non, pas maintenant, pas après si peu de prestations. Pour moi, c'est pas possible et je suis pas sûr que ça va lui faire du bien pour le reste de sa carrière d'avoir été sur les tablettes du PSG maintenant, mais bon.
Pour moi, il n'y a pas besoin d'un seul joueur dans cette équipe. Il n'y en a pas besoin.
Derrière,
ce qu'il faut.
Un défenseur central, c'est obligé.
Tu as largement de quoi faire. Je vais vous dire, j'en suis persuadé.
Ah ouais.
Moi, j'ai encore la Coupe du Monde, le Portugal. Je vois Danilo en défense centrale. Il se débrouille très bien. Avec nous, il perd ses pieds. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste un truc qui manque, c'est une direction. Vous m'entendez au club là-haut là ? Il y a une direction, les gars, putain. Juste la direction, bougez-vous le cul. Vous avez une équipe de fous, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les ingrédients, vous avez un public, vous avez un parc, vous avez tout. La seule chose qui manque, c'est une direction. Voilà.
Ils vont même maintenant avoir, Grégory, ça vient du cœur, un centre d'entraînement bientôt à Poissy.
Oh,
ils sont allés visiter aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous avez la photo, les gars.
Les images,
c'est le collecteur. Ouais. Tu vois Messi, Neymar,
les casques
de Verratti en première ligne, casque de chantier.
Ça, c'est la patte Carlo
Tenue de chantier. ils ont l'air très heureux d'y être.
Pas de Carl Olive et l'équipe de com Carl Olive, ouais.
T'imagines les gars quand on leur dit, les gars, demain, tous rendez-vous, 9h.
Après l'entraînement.
On va à Poissy, ouais. Casque de chantier, tenue de chantier, t'imagines.
Sur leur téléphone.
Déjà que pour des consultants chez nous, c'est dur de les bouger pour 10 fois moins. Alors, Messi, Neymar arrivent à les ramener. Bref.
Non, c'était. Bon.
Grégory, merci. Intervention franche, directe. Et
franchement, si j'avais le salaire des joueurs du Paris Saint-Germain, j'irais en tenue de chantier.
C'est même pas ça, ça marche même pas. Ça les saoule.
Franchement, j'irais
même
participer.
On le sait, on en a connu. Ça les saoule quand même. Mais tout le monde était là. Bien sûr, ils avaient pas le choix.
Toujours quand t'es joueur, mais bon.
Ils avaient pas le choix.
Quand même, ça va, ils ont fait un truc.
C'était pas Damien Périnel qui était amené à la crier le matin quand il jouait à Boulogne.
Soyons précis également, en complet, Carvajal, formé à Madrid. Oui. Le vainqueur avec des champions avec le Real.
Non mais appelle ça rappelle
le mythe des Zidanes et Pavones de Florentino Pérez à l'époque des Galactiques qui ont gagné avec des champions avec
le défenseur central
avec Pavone, c'était à l'époque.
Non mais le défenseur central là, comment il s'appelle celui qui est toujours le dépanneur de service là, le numéro 12
quoi. Nacho,
ouais.
Non mais apparemment c'est il y a une allergie en fait, tu peux pas gagner avec des champions quand t'as des gens formés au club ou tu peux pas gagner des trophées. Moi je te demande pas qu'ils soient titulaires mais il faut les faire jouer, sinon n'est pas de centre de formation et achète les joueurs.
Après c'est pour le coup c'est bien ce qu'expliquait Damien la dernière fois qu'il était dans l'after, c'est-à-dire ils peuvent aussi participer à cette fameuse compétition là pour les équipes réserves. Honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal.
Voilà pour ce débat autour du Paris Saint-Germain, les gars. Je remercie Grégory de Raphaël 32-16.
Salut Greg.
On va descendre de quelques étages. On va parler de Montpellier. Pourquoi Montpellier ? Parce que ça va pas. Ambiance. Délétère, mais un peu tendu à Montpellier. On va tout vous dire dans un instant. Montpellier sous la menace d'une relégation après 19 journées. 2 points d'avance seulement sur le 17e de Ligue 1. Restez avec nous. C'est Génération After sur RMC, 21h27. 1-0 pour l'Atlético de Madrid grâce à un but d'Alvaro Morata face au Real, quart de finale de la Coupe du Roi.
RMC, 20h22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Oussem Moussaïev, Kevin Diaz et Jonathan McCarthy, c'est Génération After. Vous écoutez RMC, il est 21h30. 1-0 pour l'Atlético de Madrid face au Real. Ça passe à Bernabéu. Quart de finale de Coupe du Roi, but d'Alvaro Morata.
Voilà.
L'Atlético Bilbao mène 2-1 dans un autre quart de finale sur la pelouse de Valence. Après 70 minutes de jeu, Mounian et Nico Williams ont marqué pour les Basques. 2-1, donc, dis-moi.
Le Real qui perd face à l'Atlético sur un but de Morata, il est en PLS là chez lui, Fred Hermel.
Tu crois ? Je suis pas sûr.
Non,
Fred, il est au théâtre déjà. Premier rang, invité.
C'est la nouvelle vie de Fred, comme ça.
Ouais, il kiffe Paris. Montpellier, faut-il s'inquiéter pour Montpellier ? C'est tendu, 15e de Ligue 1, 2 points d'avance sur le premier relégable. Une victoire sur les 11 derniers matchs. Match à Auxerre dimanche, déjà pour le maintien. Vous nous appelez, supporters héroletés, au 32-16. Julien Landry est avec nous, notre correspondant à Montpellier. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Ça fait un moment.
Salut Julien.
Heureux de t'accueillir, mon cher
Julien. Avec plaisir. Très heureux d'être.
Bon, évacuons cette histoire-là. Je sais pas ce que ça vaut. Histoire de déjeuner de Laurent Nicolin qui a convoqué des joueurs, Sacco, Savagnier, Casery, Ferry notamment, mais pas son entraîneur Romain Pitot. Ça veut dire quoi ? Il désavoue encore plus ?
Non, mais c'est quelque chose dont Laurent Nicolin a l'habitude de faire avec Michel Mézi, Bruno Carotti, l'état-major. Il aime bien prendre le pouls de son équipe. Alors, ce qui est vrai, ce qui choque, c'est que Romain Pitot n'est pas été convié à ce déjeuner. Mais voilà, il faut pas y voir de mauvais augure pour Romain Pitot. C'est juste que voilà, Laurent Nicolin sent que la période elle est charnière pour l'avenir du club et du coup il a convoqué les quatre de son vestiaire, à savoir TJ Savagnier, son capitaine, Jordan Ferry, le vice-capitaine. Capitaine, quelques jeunes pailladins prometteurs, à savoir Maxime Estève et Joris Chautard, et quelques vieux grognards qui ne répondent pas forcément encore aux espoirs placés en eux, à savoir Mamadou Sakho et Wabi Kazri. Et pour connaître très bien Laurent Nicolin et Michel Mézi, c'était pas un déjeuner guinguette où le but c'était de passer un bon moment.
Il y avait un peu de remontrance là-dedans.
Oui, c'était surtout pour faire comprendre notamment à Mamadou Sakho et Wabi Kazri qu'ils attendaient beaucoup plus d'eux pour la fin de la saison. Que c'était sur des garçons comme ça que Montpellier allait s'appuyer pour essayer de se maintenir. Alors il y a une petite guerre aujourd'hui avec Romain Pitot et Frédéric Mendy qui sont les nouveaux entraîneurs qui ont pointé du doigt un peu l'investissement des cadres, des anciens. Ces derniers s'en étaient plaints après le match de Nice et ils avaient été titularisés pour le match de Nantes avec les effets dont on s'en souvient, le carton rouge reçu par Wabi Kazri et la cagade qu'on peut l'appeler comme ça de Mamadou Sakho qui a offert le deuxième but aux Nantais. Ah, donc oui. Ils n'ont pas forcément répondu aux espoirs placés. ou en tout cas à leur désirata d'être plus souvent titulaire et considéré par Romain Pitot. Donc c'est vrai que Romain Pitot aujourd'hui et Frédéric Mendy ont décidé, en tout cas ont musclé le discours dans le vestiaire en disant ne joueront aujourd'hui pour le maillot pailladin que les joueurs qui ont vraiment envie de sauver le club. Et c'est vrai que Mamadou Sakho et Wahbi Khazri n'y mettaient pas beaucoup d'investissement. Donc on va voir si d'ici la fin de la saison, voire même d'ici la fin du mercato, comment ils vont être intégrés au sein du staff.
Avec l'arrivée de Kouyaté, Sakho va aller sur le banc.
Oui, bon, il était déjà relégué sur le banc avec l'arrivée de Christopher Julien. Il faut dire qu'ils empilent les défenseurs centraux du côté de Montpellier. Mais donc,
il y a Kozak qui part, qui joue aussi un peu dans l'axe là.
Exactement, voilà, Nicolas Kozak qui est parti du côté de Wolfsburg, mais qui était plutôt latéral gauche. Mais c'est vrai qu'entre Esteve, Julien, Mamadou Sakho, Pedro Mendes qui n'est toujours pas revenu de blessure, et donc Kiki Kouyaté, mais qui sera suspendu contre Auxerre dimanche. C'est vrai qu'ils empilent et qu'ils cherchent des solutions.
C'est une très bonne recrue, par contre, Kiki Kouyaté. Hein, faut pas se mentir. Il avait d'autres clubs, notamment en Turquie, je crois que c'était le Beşiktaş. Metz le vend à Montpellier, tu me corriges si je me trompe Julien, hein, mais Metz le vend à Montpellier à offre égale parce qu'ils ont des bonnes relations entre les deux clubs, mais c'est quand même un joueur sérieux.
Oui, et puis c'est un profil que les Montpellierains n'avaient pas forcément, un petit peu une dimension physique qu'il manque clairement à cette équipe montpelliéraine. Montpellier a déjà encaissé 40 buts depuis le début de la saison. C'est la pire défense de Ligue 1, avec Angers et Auxerre qui en ont pris 41. Mais c'est vrai que beaucoup de signaux sont inquiétants. Alors voilà, il faut pas y voir de mauvaises choses dans ce repas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la situation est tendue un petit peu du côté de Montpellier.
Bon Julien, tu as tes infos et je comprends ta narration quand tu nous parles de ce déjeuner, mais moi je me mets 5 minutes à la place de l'entraîneur et je me dis qu'à un moment où il faut remobiliser, à un moment où le président décide de mettre la pression sur ceux qui ne sont pas au rendez-vous, la présence de l'entraîneur, comment te mettre à sa place et te dire bah vas-y, moi aussi je vais essayer de jouer le coup à fond, mais l'entraîneur le président il m'inclut même pas dans les moments où tu sais on remobilise, et ces moments là ils sont tellement forts, et moi je trouve ça très intéressant le choix des joueurs fait par le président Nicolas. C'est très intéressant d'avoir fait ça. Il a pris une sorte de représentant des jeunes, représentant des cadres et les recrues phares, et il leur montre voilà, maintenant on va se redire les choses et on va se mettre d'accord sur ce que va être la fin de saison de Montpellier. Mais je trouve que le maillon essentiel qu'est l'entraîneur, il est totalement manquant. Moi, je trouve que c'est une totale erreur, parce que là, tu le désolidarises de son groupe, alors que, au contraire, tu aurais pu te le mettre dans la poche et le mettre avec tout le monde. Toi aussi, Romain, j'attends beaucoup de toi. Parlez-vous, on sort de ce déjeuner-là, on part sur autre chose.
Après, si c'est quelque chose qu'il fait souvent, est-ce qu'il le fait souvent sans les entraîneurs, Julien?
Non, alors le problème c'est que Romain Pitot est un garçon du Serail et qu'il sait comment ça fonctionne, mais c'est sûr qu'avec René Girard, avec Frédéric Hantz ou avec Roland Courbis, c'est des choses où les coachs sont invités. Non, mais c'est vrai que ce qui pose question dans ce repas, c'est l'absence de Romain Pitot. Alors après, ils ont musclé eux le discours déjà lors des séances d'entraînement avec Frédéric Mendy, et peut-être que Laurent Nicolin a voulu aussi épargner un nouveau discours musclé à son coach. Après voilà, on verra Romain Pitot demain matin lors de la conférence, et évidemment la question lui sera posée sur la manière dont il a vécu cette non-convocation. Alors évidemment, on aura de la langue de bois, mais voilà.
Dis-moi, oui, René Girard, il n'était pas au déjeuner, René Girard? Non, il n'était pas invité.
Il n'était pas au déjeuner.
Ni Roland Courbis, qui est toujours en tribune, René Girard, à chaque match. Alors on dit que, bon, peut-être que...
Non, mais en fait, voilà. Après, voilà, Montpellier est un club particulier où c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les anciens dans la tribune, mais c'est pas parce que tous les anciens qu'on voit en tribune vont revenir s'entraîner. En fait, aujourd'hui, les seuls rapports qu'avait René Girard avec Laurent Nicolin, c'est il lui envoie un petit texto pour avoir des places pour le match. Ce que Laurent Nicolin fait avec plaisir pour tous les entraîneurs qui sont passés par Montpellier. Frédéric Hantz est revenu récemment, avec qui pourtant Laurent Nicolin était fâché. Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps sont toujours en tribune. Mais c'est vrai que le fait de voir René Girard en tribune, ben ça alimente un petit peu la bande. Mais ça fait partie des pistes que Laurent Nicolin va explorer si jamais Romain Pitot ne fonctionne pas, parce que Romain Pitot, depuis qu'il est sur le banc, c'est une victoire à Lorient, deux matchs nuls et 6 défaites. Alors ça sera pas pour
Romain Pitot.
Démettre Romain Pitot de ses fonctions. Ça va être quelqu'un qui va venir encadrer peut-être Romain Pitot et apporter un petit peu d'expérience. Mais René Girard aujourd'hui, il pense plus à sa retraite qu'à retrouver un banc de touche, pour en avoir parlé avec lui récemment.
Franchement, c'est terrible d'être encadré alors que tu lances ta carrière d'entraîneur de Ligue 1, c'est terrible.
Je voudrais qu'on parle également, excusez-moi les gars, quand même du recrutement à Montpellier. Je parle avec des Montpelliérains, des amis Montpelliérains qui me disent il faut parler du travail de Bruno Carotti. On parle de Chéroux à Lyon. Carotti, on en parle un peu moins parce que c'est Montpellier. Mais il y a des joueurs, Suarez, Germain, Sakho, l'autre Sakho également, Nordin, Skuletic, Youn, Dolly notamment. Oui, tu rigoles aussi, Julien. Excuse-moi, là, on a une liste de joueurs. Certains ont réalisé quelques bonnes prestations, mais dans l'ensemble, c'est pas bon tout ça, quoi. Enfin, les idées sont pas bonnes.
Non, mais c'est simple. Les quatre derniers mercato montpelliérains sont ratés. voilà, quand même. Il faut le dire clairement, les deux mercato d'hiver qui sont des mercato d'ajout sont ratés. Alors on va voir, sans compter celui Kiki Kouyaté, on va voir parce que Benjamin Lecomte a passé sa visite médicale aujourd'hui. Le transfert devrait être officialisé dans la soirée ou demain matin. L'ancien portier montpelliérain va s'engager pour les quatre prochaines saisons, ce qui est un bon coup pour les Montpelliérains parce que
Benjamin Lecomte
avait connu l'équipe de France. Oui, avait connu l'équipe de France avec Montpellier. Mais voilà, ça, pour remplacer Jonas Omlin, ça reste quand même un bon choix, Benjamin Lecomte. On va voir Kiki Kouyaté. Mais si on remonte les quatre mercato précédentes, à citer des noms, Nicolas, c'est effrayant le mercato montpelliérain qui nous avait habitué à mieux avec Florent Mollet, Andy Delors, Gaëtan Laborde, TJ Savanier, Jordan Ferry. Il y a eu des années fastes pour le mercato montpelliérain. Et c'est vrai que depuis, les quatre mercato, c'est Obama, décevant, voire catastrophique.
Après,
et ça explique aussi les positions aujourd'hui du club.
Ludovic au 32-16 est avec nous, supporter de Montpellier. Salut Ludovic.
Ouais, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut.
Bienvenue dans Génération After. Bienvenue Ludovic.
Moi je vous dis, tout va s'arranger. Ce week-end c'est mon anniv, je rentre dans la 34e année. Donc normalement on sera bon.
Joyeux anniversaire en avance.
Merci beaucoup. On rigole et tout ça, mais franchement la situation les gars, elle est critique. J'étais au match à Lorient, on s'est dit c'est bon là, ça y est, ça va repartir. En fait c'est leur petit cache la forêt un peu parce que comme vous l'avez dit, il y a 6 défaites, mis à part cette victoire, il n'y a rien depuis l'installation de Pito au poste d'entraîneur. Mais Pito, il n'a pas été convoqué du coup lors de ce repas, mais on sait les relations et un petit peu ce qu'il dit sur les échanges qu'il y a avec Nicolas ou pas?
Non, les relations entre Laurent Nicolin et Romain Pitot sont bonnes. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a fait un repas de nouvelle année avec le président où il avait convié les suiveurs du MHSC et Romain Pitot était à la table du président le jour où les journalistes étaient présents. Donc voilà, il n'y a pas de tension entre l'entraîneur et la direction du MHSC. Il y a des bons rapports et des échanges entre eux.
Moi, une deuxième question qui me vient, c'est les joueurs qui sont censés faire le relais, après quel message va passer et comment va-t-il passer ensuite en
vestiaire.
Voilà.
Voilà, Julien.
Non, mais c'est évidemment des questions qui se posent. Après, il y a plein de relais, mais c'est vrai que le message aujourd'hui semble dissous. Et puis tes cadres, le problème c'est qu'ils répondent pas présents. Valère Germain, Mamadou Sakho, Wahbi Khazri, c'est pas à la hauteur en tout cas de l'investissement. Que il faut se rappeler que Valère Germain est venu pour remplacer Andy Delors et que Mamadou Sakho est venu pour remplacer Vitorino Hilton.
Quelle blague.
Daniel Congrès. Et aujourd'hui, on se fait la réflexion que
le problème,
il faudrait mieux
que...
avoir Vitorino Hilton à 42 ans en défense centrale que Mamadou Sakho qui en paraît 50 parfois quand il joue sur le terrain.
T'es dur Julien, mais c'est vrai que ils ont tenté des choses. On parlait tout à l'heure de Bruno Carotti. Je pense qu'ils ont tenté des choses. Ils en ont réussi certaines. Le gardien Jonas Omlin, c'était une énorme réussite aussi. Malheureusement, il s'en va.
Rulli aussi, mis à part les gardiens.
Jérôme Rulli.
Non, mais c'est vrai. Après, moi, franchement, tenter Valère Germain pour Montpellier.
Et même Khazri, quand je le récupère en fin de saison dernière.
Pour Montpellier, ça va. C'est pas tenter Nordin, pourquoi pas. À part le fait qu'ils aient été connus une saison très compliquée avec Saint-Etienne. Oui. Tu pouvais te dire, allez au soleil à Montpellier, dans un club familial, ça pourrait le faire pour Khazri.
Valère Germain, c'est un joueur de Ligue 2.
Il a fait un bon match contre Nantes pour le coup. Valère Germain, c'est le seul qui a répondu présent sur les
jugements. Jonathan, il en fait un par
ailleurs.
Chacun votre tour, les gars.
Je ne veux pas défendre le bilan de Bruno Carotti, mais tu me dis si je me trompe, Julien. Montpellier, c'est un club qui n'a pas une surface financière très grande, donc ils ont fait partie de ceux qui ont payé les pleins pots de l'aventure Media Pro. Donc il y avait.
C'est ce que j'allais te dire. Montpellier est peut-être même le club qui a le plus souffert de Media Pro.
Exactement.
Montpellier a été pendant longtemps le seul club qui avait des fonds propres à la fin de chaque saison. C'est-à-dire que quand ils passaient devant la DNCG, il y avait 10, 12 millions dans les caisses de Montpellier, ce qui leur permettait de faire des recrutements. Et d'ailleurs, lorsque Andy Delors et Gaëtan Laborde sont prolongés au début de Media Pro, c'est la première fois que Laurent Nicolin donne des salaires aussi élevés à ses joueurs, plus de 150 000, plus de 160 000 euros, ce que Montpellier n'avait jamais fait. Derrière, ils sont tombés avec la crise Media Pro, la crise Covid. Laurent Nicolin a été obligé de puiser dans ses fonds propres. Ils sont aujourd'hui engagés dans le projet d'un nouveau stade, un petit peu comme ce qui a pu se passer du côté de Lyon. Et c'est vrai que les finances, elles sont difficiles et que le recrutement fait par Montpellier cet été n'a été ciblé que sur des joueurs libres.
Exactement.
Et clairement, c'est un échec. Et là, pour le coup, il y a peut-être une bascule avec Kiki Kouyaté recruté pour 6 millions d'euros. On a donné un peu d'argent aussi à Monaco pour Benjamin Lecomte. On sent que Laurent Nicolin, tout le monde a conscience aujourd'hui qu'ils se sont trompés et qu'il faut agir très vite pour éviter une relégation.
Encore un milieu de terrain, Julien.
Pour éviter de faire faire une saison à la Girondin. Exactement, ça peut aller très vite. Merci
et
beaucoup.
Il y a tellement à dire. Ouais, salut les gars.
Merci Ludovic, c'est un plaisir de t'accueillir.
Salut.
Merci Julien aussi à toi. Très bonne soirée.
Salut Julien.
On te retrouve très vite sur RMC. Moi, je souhaite que Montpellier aille bien pour que TJ aille bien surtout. Voilà.
Bien sûr.
Allez, reste avec nous. Dans un instant, le Mercato Show. Bien sûr, on va parler de du feuilleton Mofi Dieng. Reste avec nous, c'est Génération After, toujours 1-0 pour l'Atlético face au Real.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Oussem Nousaïev, Kevin Diaz et Jonathan Macardy. Toujours 1-0 pour l'Atlético face au Real après 46 minutes de jeu, c'est le temps additionnel. Et puis dans l'autre match, Valence mène toujours 2-1, l'autre quart de finale de Coupe de Roi. 3-1 désormais d'ailleurs pour Valence. L'Athletic Bilbao mène 3-1 sur la pelouse de Valence. Mounian, Williams et Vesga sur penalty contre un but de Marcos pour les Valenciens. C'est parti pour le Mercato Show.
C'est combien?
30 000.
Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marchander.
Tu l'as fait à combien là?
J'ai dit 30 000.
Ça vaut 15 000 francs là?
Non, 30 000.
25 000?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Ah, franchement les gars, ce jingle Mercato, il colle à l'actualité.
Historique.
Mais il colle à l'actualité. Lorient, Marseille, tu vois. Et Mofi. Oui, mais je veux Dieng aussi. Fais-moi Mofi en plus. Fais-moi Dieng en plus. 30 000.
C'est que ça.
C'est exactement ça. Les suites du feuilleton Mofi, Bamba Dieng, Lorient, OM Nice. Alors messieurs, nos dernières informations avec Flo Germain, notamment Fabrice Hawkins. À Marseille, on a entériné le fait que Mofi ne voulait pas venir. On lâche l'affaire. Pablo Longoria et le directeur du football de l'OM, Javier Ribalta, sont en train de travailler sur d'autres dossiers dans le secteur offensif, surtout qu'à l'heure actuelle, un départ de Bamba Dieng reste une vraie possibilité. L'attaquant sénégalais qui lui souhaite, je le rappelle, on l'a dit hier soir, signer absolument à Lorient. Il est toujours à Lorient, il ne veut pas rentrer à Marseille, il a passé sa visite médicale, mais comme l'été dernier à Nice, on a relevé une petite fragilité au genou chez le joueur qui ne remettrait pas en cause totalement sa venue à Lorient. La crainte est simplement côté marseillais que Lorient soit tenté de s'en servir pour faire baisser le prix du transfert. Mais là-dessus, Longoria est catégorique, ce sera 10 millions d'euros ou rien. Voilà. Longoria veut 10 millions d'euros pour Bamba Dieng. Sinon, Dieng devra expressément rentrer à Marseille. À Marseille, on explique aussi que, de toute façon, on aura d'autres offres, sûrement anglaises, pour l'attaquant sénégalais. Réaction là-dessus, les gars?
Mais, alors, deux choses. J'ajoute aussi que Ivan Ilic, qui était annoncé comme une signature assurée pour Marseille, va finalement signer au Torino.
Oui.
Il va rejoindre Juric. Il a beaucoup de compatriotes aussi qui jouent là-bas. Donc ça, c'est un deuxième petit coup dur pour les Marseillais. Écoute, moi, ce que je pense, c'est que le travail de Longoria est phénoménal. Il fait des choses qui sont extraordinaires. Il a restructuré le club. Il a redonné de la fierté aux Marseillais. Avec une approche qui est un petit peu, très froide. On n'hésite pas à renouveler, à vendre des joueurs, à faire partie des joueurs qui sont indésirables. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut remettre un petit peu d'humain et avoir un côté un peu humaniste dans tout ça. Même Badiang, il a été baladé à droite à gauche. On se rappelle ce qui s'est passé l'été dernier. On se rappelle de ce qui a été dit sur lui. On se rappelle de la gestion de son contrat. On se rappelle de comment le club a géré l'ensemble de la carrière professionnelle de Bamba Dieng. Et là, je pense que d'encore une fois lui poser, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, ça suffit. Certes, il a eu des comportements sur certains matchs, et encore, ça reste sur un ou deux matchs. Allez, on a encore en tête le match contre Rennes où il a pas été totalement réglo, notamment dans l'implication et dans la volonté. Certes, c'est pas le vrai Ronaldo en termes de potentiel, mais au bout d'un moment, faut arrêter de vouloir mégoter sur 1 ou 2 millions. Le mec, tu lui as fait vivre un enfer à chaque mercato, tu l'as baladé. Pablo, sois humain, laisse-le, il va aller à Lorient, tu vas quand même tirer un chèque. Si c'est 9 millions, même si c'est que 9 millions, c'est déjà beau pour un joueur comme Bamba Dieng. Voilà, je pense qu'il faut un petit peu c'est bien d'avoir la tête froide et d'être très rationnel et très efficace, mais parfois laisser parler un petit peu le cœur, parce que là, Bamba, sa carrière, je pense que mentalement, t'es en train de le détruire si tu le fais revenir à Marseille, qu'il refait banquette jusqu'à la fin de la saison.
Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez.
Comprends Longoria aussi, s'il a pas de solution de remplacement.
Il y a pas. Oui. Il faut pas être perdant aussi dans l'histoire.
Faire que de la romance.
Et il va revenir, mais il va faire quoi, Bamba Dieng, s'il revient? Tu vas le récupérer comment?
Non, mais t'inquiète pas.
Tu récupères la tête, dans le
problème, c'est qu'il prolongera pas, qu'il aura 1 an et demi de contrat, voilà. Et qu'il risque de perdre beaucoup d'argent.
Moi, je pense que si Longoria.
Il va absolument le vendre maintenant.
Si Longoria peut trouver une solution, il va la trouver.
Bien sûr.
Là, aujourd'hui, c'est un peu du bluff. Il veut pas montrer ses cartes. Il dit qu'il va rien lâcher en dessous de 10 millions. Mais, je pense, comme tu dis, que si
il
c'est 9
par
millions.
Lâcher.
J'espère, en tout cas, qu'il le laissera partir. Parce que je suis d'accord pour dire que Bamba Dieng à l'OM, de toute façon, que ce soit en termes de niveau ou en termes d'implication, ça va être compliqué au vu de ces non-départs successifs. Et j'espère simplement que l'histoire de la visite médicale, c'est rien de.
Alors Kevin, tu en parles et ça me fait plaisir que tu en parles. Moi, j'ai pas le dossier médical de Bamba Dieng, mais je suis désolé. Hein, c'est arrivé l'été dernier quand il devait s'engager à Nice. Ça revient aussi là cet hiver. Alors là, c'est plus une anguille sous roche. Là, on est sur un requin sous volcan. Ouais. C'est pas possible. Moi, je veux bien qu'une fois il y ait un problème, mais quand même, là, à un moment donné, il va falloir. Je pense que si on veut absolument le faire partir dans deux mercatos d'affilée du côté de Marseille, c'est qu'ils connaissent très bien son dossier médical.
Après, juste pour conclure sur l'OM, c'est juste que là, on est un peu défaitiste. On se dit, oh là là, Mofi vient pas, oh là là, il y a un problème avec Dieng, Ilic, il signe pas. Juste se rappeler quand même que l'effectif, il est quand même très très complet déjà. Et que t'as quand même fait un très gros coup au mercato hivernal en recrutant un joueur de la trente de Malinovski. Donc, faut pas non plus.
Oui, mais Jonathan, il manque toujours ce joueur qui pourrait permettre à Alexis Sanchez de pas jouer
de au but. C'est ça aussi. Même de souffler un peu aussi. Après, si tu perds pas Guendouzi, franchement, ton effectif est complet.
Eh oui.
Lyon, le mercato lyonnais mis au point aujourd'hui encore de Jean-Michel Aulas. Toko Ekambi le confirme, c'est fait. Prépayant de 6 mois, 1,5 million d'euros à Rennes, sans option d'achat. Rennes, en revanche, prendra en charge jusqu'au terme du prêt le salaire intégral de Toko Ekambi.
Il y a OL Rennes là. C'est con.
Non, c'est pas là, OL Rennes.
C'est pas dans les 15 jours.
Peut-être. Alors,
ils prennent en charge le salaire, carrément.
Regardez.
Voilà. Ils sont généreux.
Alors, pour Romain Fèvre, il ne rejoindra pas le FC Lorient tant que les conditions fixées, dit Jean-Michel Aulas, par l'OL ne seront pas satisfaites par Lorient. Lorient tente d'obtenir un prêt alors que Lyon réclame un transfert. Je rappelle qu'il avait acheté il y a un an et demi. 15 millions d'euros. Ouais, exactement. Ça. Et donc, concernant Malo Gusto, et là, Kevin va se déployer. Car il est arrivé dans la rédaction à l'heure. Quoi, Malo Gusto? Oui, hier même déjà. Malo Gusto qui s'est mis d'accord avec Chelsea, je le rappelle. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas précise qu'il continuera de jouer à Lyon au moins jusqu'au 30 juin 2023. Alors que Gusto veut partir à Chelsea. Voilà. Kevin?
Ouais, écoute,
c'est ton avis tranché, son jingle.
C'est le verbe vouloir qui te dérange.
Non mais écoute, après moi je veux bien que les joueurs veuillent aller jouer en première ligue, veuillent aller jouer dans un grand club comme Chelsea. Mais il y a un moment, il faut savoir. Certes, il est blessé, mais il faut savoir qui joue à ton poste. Aujourd'hui, je sais que tous les joueurs, comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, je disais que il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'ils peuvent gagner la concurrence devant n'importe qui. Mais aujourd'hui, quand t'es latéral droit, un jeune joueur, tu veux aller à Chelsea, je pense qu'il y aura beaucoup de 0-0 après les chiffres et il y aura un très beau chèque, ok. Mais c'est Rhys James, le latéral de Chelsea, qui reviendra de blessure dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je te dis, ok, donc tu veux aller à Chelsea, là où il y a Rhys James. C'est comme si quelqu'un voulait aller à l'époque du Barça jouer à la place de Neymar ou de Messi, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, Rhys James, je sais pas si on le connaît bien en France,
c'est peut-être
le meilleur latéral droit au monde lorsqu'il est apte à jouer. Il est puissant, il peut marquer des buts, il est technique, il a une qualité de centre exceptionnelle, etc., etc. Et tu te dis, en tant que latéral droit qui vient de débuter au plus haut niveau, je vais aller à Chelsea.
Moi, je suis mitigé, mais pas sur ton argument à toi. Je suis mitigé parce que Chelsea, c'est un peu les soldes, quoi. Mais en termes d'achat, ils font n'importe quoi. C'est là une braderie.
Justement.
Quand tu veux les soldes, ils n'attendent pas les soldes.
On libère, on fait rentrer.
Tu veux aller dans un club.
Moi, c'est le seul truc qui me dérange, c'est le choix du club où tu vois, par exemple, on va se retrouver en fin de saison avec 17 ailiers de
26 défenseurs centraux.
C'est plutôt ça qui me dérange. Mais dans l'exemple que tu cites avec Rhys James, tu sais très bien qu'il faut anticiper un maximum. Tu sais pas combien de temps va rester Rhys James, franchement.
Rhys James, il est à Chelsea, il va
partir. Tu sais pas, ça. Kevin, tu sais pas.
Avec les nouveaux propriétaires et les salaires qu'ils sont en train de donner, il va partir.
Tu ne sais pas, Si un jour il a envie, je sais pas, d'aller vivre dans un autre championnat, et c'est le Real l'appelle.
Vu son âge, etc., tu sais, je mets pas.
Mais qui a la certitude que ce mec-là va faire 10 ans à Chelsea?
Il y a au moins 2-3 saisons. Passons 10 ans. Juste 2-3 saisons.
Moi, je suis pas sûr.
Ça fait un moment qu'il joue. Malo Gusto, à l'âge qu'il a, tu en as parlé dans ton avis.
Oui,
il doit jouer.
Il doit jouer.
Et même si c'est juste 2-3 ans, il peut pas faire 2-3 ans à être la doubleur de Rhys James. C'est pas possible.
Et c'est pour ça.
Il est conseillé par qui, ce gamin?
Et c'est pour ça, justement, que, alors pour le coup, on m'a souvent proposé le métier d'agent, mais c'est pas un métier qui m'intéresse. La seule partie qui pourrait m'intéresser, c'est d'essayer de faire le plan de carrière avec le joueur. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'Nkoukou et de Diaby. Que Malo Gusto fasse comme Kolo Muani, aille à Francfort, à Leipzig, ou dans ce genre de club où il va jouer, où on va miser sur les jeunes, Bien sûr, moi je prends souvent l'exemple de Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, il est formé au FC Groningen. C'est et ensuite, il va au Celtic Glasgow d'abord pour mettre un pied en Grande-Bretagne. Et ensuite, il va à Southampton. Et ensuite, il signe à Liverpool. Et c'est pareil pour Ruben Dias qui a attendu avant de partir. Il pouvait aller à Lyon, il est resté. Mais les joueurs, ils ont besoin de jouer. Ils ont besoin d'une certaine maturité pour s'imposer dans un si grand championnat. Dans
comme
un si grand
club. Et comme Bamba a fait Porto avant de venir dans un grand club comme Marseille.
Bon, on ne sait pas trop quel âge il a encore, mais... au moment où il arrive, non, je plaisante, mais au moment où il arrive à Porto, c'est encore un joueur qui au début, c'est très compliqué pour Chancel Mbemba à Porto. Et ensuite, il a la maturité. Et là, avec l'âge qui avance, il arrive à arriver à Marseille avec beaucoup de maturité. Il s'impose tranquillement. Mais je veux dire,
moi, je te rejoins. Je vais me répéter, mais même s'il reste que 2-3 saisons, il va là-bas, il jouera pas. Ça a aucune utilité pour lui, pour le développement de sa carrière, pour l'Olympique Lyonnais. La seule chose que Lyon pourrait faire, si vraiment Lyon est aux abois financièrement, etc., c'est tu le vends, mais tu te le fais prêter au moins sur 2 saisons. Je pense que ça serait la meilleure des choses. Mais
si cet été, James part de Chelsea, vous allez m'entendre. Je vous le dis.
Mais je pense que franchement,
même s'il part de Chelsea, ils prendront quelqu'un derrière.
Ah non, mais si tu fais venir Malo Gusto cet hiver, c'est pour ça en général. Ou peut-être
il est fort Malo Gusto. Mais non, on se rend compte qu'à l'instant T, il y a un monde d'écart entre.
J'enlève pas la qualité de Rhys James. Je te dis juste qu'on anticipe.
Mais il y a un monde entre Malo Gusto et la Première Ligue de toute façon.
Mais bien sûr qu'il faut un temps d'adaptation. Mais moi, je t'enlève pas les qualités de Rhys James. Je te parle pas de tout ça. Je dis qu'il faut anticiper. On va pas se plaindre quand il y a un club qui va anticiper. Même si, comme je disais, s'ils le font très mal, mais on passe plein.
Pour finir sur Lyon, les gars. Pour finir sur Lyon, l'OL s'est positionné sur l'international tunisien de Cologne, Elias Kiri, qui a marqué d'ailleurs cette semaine.
Très bonne idée.
Sachez également que Rennes a trouvé une porte de sortie pour le gardien Alfred Gomis, hein, qui était numéro 4 dans les archives. Il va aller jouer à Com en série B, près de 6 mois sans option d'achat.
Et Fabregas
oui, exactement.
C'est ça,
le rêve, hein, franchement.
Ah, t'imagines à Com.
La maison sur le lac, tu descends l'entraînement.
Tu descends, tu salues Georges Founet.
Tu choisis tes clubs.
Hein. What else derrière. Bon. Fawzi Ghoulam s'est engagé à Angers. Il était sans contrat, 31 ans, depuis juillet dernier, son départ du Napoli où il a joué 8 saisons.
Ils ont une belle capacité à faire revivre les internationaux algériens. Ils l'ont fait avec Ben Taleb, pourquoi pas Ghoulam.
Et juste, parce que c'est passé un peu inaperçu, parce que c'est un joueur qu'on a eu en Ligue 1. Il a fait 8 saisons, dont certaines saisons à très très, très haut niveau à Napoli. Ouais. C'était un des meilleurs latéraux d'Europe.
C'est vrai. Une fois. Un peu irrégulier, mais effectivement, il a quelques références.
Sous Sarri, c'était quelque chose, hein, le gamin.
En tout cas, j'ai aimé l'expression de Oussem, hein, ce que nous dit Mamad également. Un requin sous volcan, je ne la connaissais pas. Pourquoi pas?
C'est parce que c'est trop gros.
Vous connaissez éléphant sous gravillon.
Là, t'as gagné un jingle, là, je te dis.
Baleine sous gravillon, d'ailleurs.
C'est énorme, c'est.
Allez, reste avec nous. L'after, la suite. Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, c'est le trio qui vous accompagne jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous.
Génération After.